Studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute de Studio Tamani, il est 8h sur l'ensemble de notre réseau synchronisé. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici la matinale. Après la signature en décembre 2019 de l'accord sur la relance du trafic ferroviaire entre le Mali et le Sénégal, les cheminots du Mali demandent au gouvernement de clarifier ses objectifs futurs. Selon eux, le protocole d'accord abroge toutes les dispositions antérieures. Les dates des élections législatives ont été annoncées hier mercredi en Conseil des ministres. Déjà, le président du Sénat, Fassou Iriwaton, se dit sceptique pour le bon déroulement de ce scrutin. La crise de 2012 a porté un coup dur au musée du Sahel de Gao. Les principaux visiteurs ont abandonné les lieux. De nos jours, les responsables du musée optent pour d'autres mesures pour attirer les visiteurs. Voilà pour les titres, le développement dans un instant avec Sekou Gadji. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les cheminots du Mali demandent au gouvernement de clarifier ses objectifs futurs. Cette demande des travailleurs du rail a été faite hier mercredi à Bamako. Elle intervient après la signature d'un accord en décembre 2019 entre le Mali et le Sénégal portant sur la relance du trafic ferroviaire. Selon ces syndicats, ce protocole d'accord abroge toutes les dispositions antérieures, notamment la fin de la gestion de la phase transitoire Dakar-Bamako ferroviaire DBF. Le reportage de Moussa Malé Sissoko.
Selon Moussa Keïta, Dakar-Bamako ferroviaire DBF, qui est l'organe transitoire chargé de la gestion de l'activité ferroviaire, va disparaître. Pour le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du rail, cette situation est inquiétante pour les cheminots qui ne sont pas imprégnés de ce projet. Moussa Keïta.
Du 28 décembre à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune communication formelle. Malgré que cette décision, ce protocole a été signé entre le ministre des Transports du Sénégal et le ministre des Transports du Mali, sans les partenaires sociaux, nous n'avons pas compris cet acte posé. Nous n'arrivons pas à rencontrer le ministre du tutelle pour connaître les tenants et les aboutissants de l'acte posé.
De son côté, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du rail estiment que cet accord est en déphasage avec l'article 13 de la décision interministérielle. Selon Maman Tienta, ce texte prévoit que la fin de Dakar-Bamako ferroviaire doit coïncider avec la signature d'une nouvelle convention de relance des activités ferroviaires.
Aujourd'hui, les travailleurs sont dans un vide juridique car ils ne sont dans aucune entreprise. C'est un licenciement camouflé qui est en train d'être planifié par les autorités du Mali et du Sénégal. Nous ne comprenons pas comment une décision signée par 4 ministres puisse être abrogée par un quelconque protocole signé par le seul ministre en charge des transports. La relance devait être effective avant de migrer vers de nouveaux horizons.
Le groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali invite les autorités à clarifier la situation afin qu'ils puissent comprendre cette nouvelle démarche.
Alors, toutes nos tentatives pour faire réagir les responsables de la Société du patrimoine ferroviaire ainsi que le ministère des Transports et de la Mobilité urbaine sur la question sont restées vaines. Vous avez la possibilité de retrouver toutes ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Fusion du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec celui de l'Éducation nationale. La décision a été annoncée hier au Conseil des ministres. Le département de l'Éducation nationale était sans ministre depuis le décès du docteur Temuré Tchoulenta le 10 janvier dernier. Désormais, un seul ministère englobera donc l'Enseignement supérieur, la Recherche scientifique et l'Éducation nationale. Il est dirigé par le professeur Mahamadou Famanta. Pendant ce temps, les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 organise ce jeudi matin une marche sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a annoncé hier les dates des élections législatives. Le premier tour va se tenir le 29 mars et le second tour le 19 avril 2020. Le président du Sénat de Fassou Iriwaton se dit sceptique quant au bon déroulement du scrutin. Pour Mountagatal, plusieurs facteurs, notamment l'insécurité que traverse le pays et l'application de l'accord pour la paix peuvent nuire au déroulement du vote. Il est au micro de Mariam Kamba Keïta.
Ce n'est pas un problème d'organisation technique. Ce n'est pas un problème d'annonce péremptoire. Vous savez, quand on regarde le temps d'Ibrahim Bouaké à la tête du Mali, il y a eu plus de convocations des collèges électoraux annulées que de convocations des collèges électoraux suivies d'élections. Comment un gouvernement peut-il convoquer un collège électoral pour dire ensuite une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, excusez-moi, je me suis trompé, on ne peut pas organiser les élections. Parce que moi, j'ai les crédits de bonne foi. Hein. Je refuse de croire que le gouvernement ne voulait pas seulement organiser les élections. Je suis convaincu qu'il ne pouvait pas organiser les élections sans lever l'entrave de l'accord de paix qui dit qu'il n'y aura pas d'élection avant qu'un certain nombre de conditions liées à la mise en œuvre de l'accord ne soient tenues. Maintenant, le choix est simple. Ou le gouvernement passe outre, ou le gouvernement s'entend avec les mouvements signataires.
Maître Muntagatal, président du CENID Fassou Iriwaton. Il était au micro de Mariam Kamba Keïta. 8h05 à Menaka, plus d'un mois après l'arrêt des activités de certaines ONG dans cette région, des habitants réclament leur retour. Plusieurs femmes et jeunes rencontrés par notre reporter dans la région affirment que l'arrêt des activités de ces ONG n'est pas une bonne chose pour les populations de la région en général et les femmes et les jeunes en particulier. Le reportage de Mohamed Ag Issa Feitan, notre correspondant sur place.
Les femmes et les jeunes sont les plus impactés par la crise dans la région de Menaka. Assez d'ONG ont débarqué dans la région depuis 2012 pour aider ces couches à renforcer leur résilience face aux conséquences de cette crise. Assez de femmes s'accordent à reconnaître que l'arrêt et leurs activités les handicapent. Déjà Annabi, président de la CAFO à Menaka.
Ces ONG nous ont beaucoup aidés. Il n'y a aucune localité de Menaka dans laquelle elles n'ont pas apporté de soutien, surtout envers les femmes.
Pour le président du conseil régional des jeunes de Menaka, les populations ne méritent pas un tel sort. Haruna Ibatan.
Dehors même de cette jeunesse qui est employée par ces ONG contribuent vraiment à aider la population de Menaka en général dans beaucoup de domaines. Cette population qui a aujourd'hui énormément besoin de ces ONG ne mérite pas ce sort.
À l'instar des femmes et des jeunes du cercle de Menaka, des populations des autres cercles souhaitent la reprise de l'aide dans les plus brefs délais. C'est le cas d'Adizetou, membre du bureau de la CAFO Dandrambukan qui interpelle l'ensemble des décideurs.
On lance un appel à nos autorités, partenaires, à nos groupes armés. On les supplie, on les demande, nous femmes de la région de Menaka, de faire tout pour que nos ONG reviennent en bonnes conditions, en sécurisant aussi leurs travaux.
En attendant le retour de ces ONG qui sont toutes internationales, seuls le CICR et les ONG locales continuent leur activité dans la région. Mohamed Ag Issa Feitan, Menaka Studio Tamani.
Restons toujours au nord du pays, cette fois-ci à Gao, la crise qui a éclaté en 2012, a porté un coup dur au musée du Sahel de Gao. Les principaux visiteurs de cet espace culturel, des touristes pour la majorité, ont abandonné le nord du Mali en général et la région de Gao en particulier. Les rares visiteurs qu'on aperçoit aujourd'hui sont de la ville de Gao et les recettes sont relativement faibles. Des mesures idoines s'imposent pour attirer les visiteurs à la découverte de la culture de cette région historique. De Gao, nous retrouvons notre correspondant Ali Ibrahim.
Le musée du Sahel de Gao a ouvert ses portes le 6 décembre 1981. À cette époque, le tourisme était florissant. Des milliers de visiteurs étaient enregistrés chaque année. Le 6 février 2012, les objets sont transférés dans les nouveaux bâtiments construits à coups de millions. Mais l'abandon du nord du pays par les touristes impacte sérieusement sur le musée. Ablaye Bonkana, directeur du musée du Sahel.
Donc la reprise n'est toujours pas facile parce qu'on sait jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a pas de touristes au niveau de Gao. Nos visiteurs sont à 90% des nationaux. Nous souhaiterons vraiment atteindre plus de visiteurs par jour. Les visiteurs pour l'étranger se font rares sur le goût du musée.
Malgré les difficultés, on ne manque pas d'initiatives pour redonner à la structure son niveau d'antan. C'est pourquoi il est prévu un certain nombre d'activités. Ablaye Bonkana, directeur du musée du Sahel.
Nous sommes en train de mettre des clubs des amis du musée un peu partout, dans les écoles. Nous avons même organisé une journée des tout petits au musée. Nous allons organiser aussi prochainement, comme on a eu à le faire par le passé, des conférences pour faire connaître d'autres thèmes sur lesquels le musée travaille.
Dans cette même logique, la contribution des populations de Gao est nécessaire. C'est en tout cas l'avis de Oumar Touré, un des visiteurs visiteurs du jour.
Le musée du Sahel, c'est l'image de la ville de Gao. Si vous voulez vraiment donner une certaine valeur au musée du Sahel, il faut aller voir. Il faut que toute la jeunesse de Gao, il faut que toutes les populations de Gao sortent de temps en temps pour rentrer au musée, voir les objets, voir ce qui va et ce qui ne va pas.
Du côté de la direction régionale de la culture, on n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Il faut signaler que, comme le musée du Sahel, beaucoup d'autres symboles culturels passent de mauvais jours en ce moment. Ali Ibrahim, Gao pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, une formation de 3 jours sur le concept l'école amie des enfants, amie des filles, à travers le fonctionnement des gouvernements d'enfants dans les écoles, a pris fin dimanche dernier à Yorosso. Cette approche, selon les organisateurs, vise à veiller au respect des droits et au bien-être de chaque enfant de la communauté. Une vingtaine de directeurs d'école des communes de Yorosso, Menamba, Boura et Kumbia ont pris part à cette session qui était organisée par l'ONG RAC, réseau d'appui conseil en partenariat avec l'UNICEF. Manque de moustiquaires, perte de tickets de recensement, surfacturation des effectifs des membres de la famille. Ce sont entre autres les constats dégagés mardi lors de la restitution de l'opération de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans les cercles de sang et tout mignon. Les maires, les présidents des ASACO et les autorités sanitaires se sont engagés à prendre des dispositions pour trouver rapidement une solution au problème. C'est ce qui me fait donc à ce journal présenté par Sekou Gadjigou. La mise en onde est assurée par Gagny Kanté. Merci de l'avoir suivi.